Bienvenue dans Médiatique, l'émission d'information proposée par France Lime sur l'antenne de RCF 61. Nous entamons aujourd'hui une série de deux émissions consacrées au Bartonelle, avec le docteur Muriel Vessier-Tossa, directrice de recherche à l'INRA. Docteur Vessier, bonjour.
Et bonjour Sophie.
Alors, on avait déjà abordé en septembre 2015 les maladies vectorielles attiques en général, et aujourd'hui, on va faire un gros plan sur les Bartonelles. C'est un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup.
Moi, je travaille sur les Bartonelles depuis très longtemps, à peu près depuis le début des années 2000, en fait. Mmh. Donc, ça fait très longtemps, oui.
Et quand on cherche des renseignements sur les Bartonelles, un petit peu sur Internet, par exemple, on trouve essentiellement trois espèces qui sont mentionnées et qui provoquent chez l'homme des maladies qui sont connues depuis assez longtemps. La première, c'est la fièvre des tranchées, qui est causée par Bartonella quintana, et donc qui a fait des ravages pendant la Première Guerre mondiale. Et la maladie de la griffe du chat, donc, qui est causée par Bartonella encelae. Et puis une petite troisième, la maladie de Carrion, qui ne concerne pas directement ici en Europe, puisqu'elle est plutôt en Amérique du Sud, et qui est causée par une troisième Bartonelle, qui est Bartonella baciliformis. En dehors de ces trois espèces assez connues, à combien on peut estimer le nombre d'espèces de Bartonelle en tout? Et puis le nombre d'espèces de Bartonelle qui, elles, sont pathogènes pour l'homme?
Alors effectivement, il y en a beaucoup plus que trois espèces. Hein. Aujourd'hui, on en connaît une trentaine d'espèces différentes. Et voilà, donc on en connaissait trois à peu près jusqu'aux années, fin des années 90. Et depuis qu'on les recherche, en particulier dans les animaux sauvages, on en trouve associés un peu partout à différentes espèces animales. Sur cette trentaine d'espèces, on en connaît une dizaine qui ont été retrouvées chez l'homme et associées à des maladies chez l'homme.
Donc les Bartonelles sont des bactéries, ça ressemble à quoi? Parce qu'on connaît la forme spiralée de la bactérie de la maladie de Lyme, et les Bartonelles, ça ressemble à quoi quand on les a sous le microscope?
Alors, ce sont de toutes petites bactéries, donc on voit à peine hein, sous microscope, c'est vraiment très petit, c'est entre 1 et 1,5 micromètres de long, et entre 0,5 et 0,6 micromètres de diamètre. Ce sont des bactéries qui sont gram-négatives et qui sont en fait des parasites intracellulaires facultatifs et qui infectent en particulier les globules rouges.
Donc c'est des bactéries qu'on va trouver essentiellement dans des cellules, mais pas toujours, elles peuvent sortir, elles ne sont pas tout le temps dans
les
cellules.
Voilà, donc en fait ce sont des bactéries qui sont transmises en général par des vecteurs, arthropodes, on va en reparler probablement un peu plus tard, et au moment de leur transmission, en fait, elles arrivent libres dans l'individu, et ensuite, donc, elles vont coloniser, elles arrivent au niveau de la peau, où elles sont injectées, et ensuite, elles vont coloniser le sang, et lorsqu'elles arrivent dans le sang, en fait, elles vont reconnaître les globules rouges qu'elles vont infecter.
Elles sont plutôt à l'intérieur des cellules, mais on arrive quand même à les cultiver sur des milieux non vivants, en fait, en laboratoire.
Ah oui, tout à fait. En fait, elles se cultivent sur des boîtes de pétri avec un milieu gélosé qui est enrichi de sang. Et on les fait pousser à 35 degrés, voilà, tout à fait, de manière assez classique.
Alors avant de se pencher sur les Bartonelles européennes qui nous concernent plus, j'aimerais qu'on parle quand même un tout petit peu de l'historique de la maladie de Carrion. Parce qu'en fait, c'est assez particulier. On connaissait deux maladies donc, en Amérique du Sud, une qui s'appelle la verruga et l'autre qui s'appelle la fièvre d'Oroya. Et on a l'habitude de penser que quand on a un agent infectieux, ben, on a une maladie qui correspond. Et en fait, à un moment donné, on a compris que c'était le même agent pathogène qui provoquait ces deux formes assez différentes, même très différentes de maladies. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est au moment en fait de la découverte de l'Amérique du Sud par les Espagnols, en fait, qui sont arrivés en masse en Amérique du Sud. Les Espagnols, en fait, il y a une hécatombe et beaucoup sont morts de ce qu'on a appelé la fièvre d'Oroya. Donc ça, c'était les premières manifestations historiques de cette fièvre. Et ensuite, il y a eu un chemin de fer qui a été qui a été construit dans la vallée d'Oroya, et les personnes qui sont venues fabriquer le chemin de fer venaient de régions autres que cette vallée, donc sont arrivées là. Et là aussi, il y a eu une hécatombe dans les ouvriers qui ont construit ce chemin de fer, et ils sont morts. Il mourait d'une fièvre très forte, avec une anémie, donc une destruction massive des globules rouges. Et à côté de ça, les populations locales souffraient d'une forme chronique qui s'appelait verruga peruana, qui est en fait une sorte de verrue qu'on retrouve au niveau de la peau, et c'est une verrue qui est remplie de sang. Et c'est donc Carrion qui, c'était au début du XXe siècle, s'est inoculé du sang qui provenait de la verrue, du sang de la verruga peruana. Il se l'est inoculé et quelques semaines après, il est mort de fièvre très foudroyante avec une anémie importante. Et en fait, il a développé les syndromes de la fièvre d'Oroya. Et c'est grâce à cette expérience, on va dire, qu'on a pu s'apercevoir qu'en fait, la verruga peruana et la fièvre d'Oroya, en fait, c'était des manifestations différentes d'une même maladie qui était attribuée à un même agent qu'on a appelé ensuite Bartonella.
Et ce Carrion était un étudiant en médecine, c'est ça?
Voilà,
il cherchait
ça.
À connaître un petit peu plus cette maladie. Malheureusement, il a payé de sa vie. On va s'intéresser maintenant plus à Bartonella Ensele, qui est présente chez nous. Et il y a eu en fait deux travaux, deux articles là, qui sont très intéressants auxquels vous avez participé tous les deux. Donc ça va être le thème de l'émission, enfin le fil conducteur. En 2008, donc une équipe de chercheurs dont vous faites partie, chercheurs français, a démontré que Bartonella Ensele peut être transmise par les tiques, et plus particulièrement par la tique Ixodes ricinus, qui est celle qui est la plus abondante, la plus répandue en France. Et pour bien comprendre la portée de cet article et de ces travaux, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle était la façon dont on considérait cette maladie avant ?
Alors en fait, Bartonella Ensele était connue classiquement pour infecter les chats. Et de chat à chat, on savait que cette bactérie était transmise par les puces du chat, et que de manière accidentelle, un chat pouvait infecter l'homme lorsqu'il le mordait ou le griffait, d'où le nom de la maladie des griffes du chat. Et voilà, donc c'était vraiment ce qui était connu au début des années 2000. Et nous, en fait, on commençait à travailler sur les tiques et les agents pathogènes transmis par les tiques. Et lorsqu'on recherchait un certain nombre d'agents pathogènes, en fait, un peu par hasard, on a découvert des bartonelles dans les tiques. Et donc, on en a découvert en France, et d'autres équipes dans le monde entier ont trouvé des bartonelles dans les tiques, de l'ADN de bartonelles dans les tiques. Et de manière concomitante, en fait, il y avait des personnes qui étaient infectées par Bartonella Ensele et qui n'avaient jamais eu de contact avec un chat, qui ne s'étaient jamais fait griffer par des chats. Et du coup, on s'est posé la question d'une éventuelle transmission de cette bactérie par les tiques. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mené une expérience où on a essayé de reproduire le cycle de transmission de Bartonella par la tique Ixodes ricinus, donc en laboratoire.
Alors là, pour bien comprendre l'expérience, il faut rappeler quand même justement ce cycle de vie, expliquer brièvement, mais quand même l'expliquer, comment se développe une tique, les différents stades, pour qu'on puisse vraiment suivre en détail l'expérience qui est vraiment passionnante.
Alors, d'accord, donc on va commencer en fait avec le stade larvaire, qui est le premier stade, en fait, on va dire, un stade de la tique qui, en général, n'est pas infecté par Bartonella, et en général, il n'est pas infecté, il est infecté par très peu d'agents pathogènes. Ces larves, en fait, vont se nourrir une première fois, en général, sur des petits animaux. Donc c'est souvent des rongeurs, ça peut être des oiseaux, des animaux que l'on va retrouver dans la forêt, donc qui est le biotope naturel des tiques Ixodes. Et donc lorsque la larve va se nourrir sur un animal, elle va se gorger de sang, et si l'animal est infecté, elle va se gorger du sang infecté. Et c'est comme ça que la larve va pouvoir acquérir une bartonelle ou un autre agent pathogène. Ensuite, lorsque la larve est gorgée, elle se détache, tombe dans la végétation et va muer pour donner ensuite une nymphe. Et ensuite, cette nymphe va de nouveau devoir manger, faire un deuxième repas sanguin, dont la nymphe est à la recherche d'un deuxième hôte, donc qui peut être soit un animal, soit un homme qui passerait par là. Et la nymphe, donc, va piquer un deuxième hôte. Et en piquant cet hôte, elle va pouvoir elle-même, à nouveau en prenant du sang, soit s'infecter par un deuxième agent pathogène, et aussi injecter à cet hôte l'agent pathogène qu'elle a acquis à l'état de larve. Une fois que la nymphe est gorgée, elle se détache, elle mue et se transforme en adulte, soit en adulte mâle, soit en adulte femelle. Les femelles vont à leur tour piquer un troisième hôte, qui là aussi peut être soit plutôt un grand mammifère, alors ça peut être des cervidés, ça peut être des sangliers, et ça peut être l'homme, les bovins, ça peut être le chien qui passe par là ou le chat. Et la femelle va elle aussi pouvoir retransmettre les agents pathogènes qu'elle avait acquis lorsqu'elle était une nymphe ou lorsqu'elle était une larve. Une fois que la femelle est gorgée, elle se détache et là elle va pondre ses œufs. Et ces œufs vont donner des larves, et puis le cycle comme ça va continuer indéfiniment.
Voilà. Donc il y a un terme en anglais, c'est questing ticks. On n'a pas vraiment l'équivalent en français, à moins que vous en utilisiez un dans vos laboratoires, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est qu'une questing tick ?
Alors en fait, une questing tick, c'est une tique qui est à l'affût dans la végétation. C'est une tique qui n'est pas encore gorgée, qui n'a pas pris son repas sanguin.
Et donc, ça peut être soit une larve, soit une nymphe, donc soit une adulte.
Ouais.
On va dire que si une larve qui est justement en attente, si elle, jamais elle possède un pathogène à l'intérieur d'elle, c'est qu'elle l'a eu depuis sa naissance, en fait, puisque elle, une larve qui est à l'affût n'a jamais prélevé de sang encore. Et donc, si jamais il y en avait effectivement dans la larve, c'est qu'elle l'a eu depuis sa naissance. Et ça a été démontré quand même pour certains pathogènes, comme par exemple Babesia divergens, qui peut être présente dès le stade de larve, puisqu'il y a une transmission de la femelle adulte à la larve par le biais des œufs, enfin à travers les œufs. Et on appelle ça donc la transmission transovarienne, c'est ça ?
Tout à fait, oui, tout à fait ça.
Février de cette année-là. C'est le début de mon histoire, bien avant ma première guitare, 4 ans après Hiroshima. Février de cette année-là, Vietnam se disait Indochine, un homme s'installait en Chine, et les chansons n'en parlaient pas. Février. Cette année-là, la mort a-t-elle fait une trêve au cœur des hôpitaux en grève? Les journaux ne le disent pas. Sur le calendrier, au mois de février, les jours allongent peu à peu. On se lève assez tard, les yeux pleins de brouillard, heureux ou malheureux.
Vous écoutez Médiatique et on parle des bartonelles avec le docteur Muriel Vessier-Tossa.
Donc en fait, il y a deux sortes d'agents pathogènes transmis par les tiques. Il y en a certains qui sont transmis par les tiques à leur descendance. Donc dans ce cas-là, on parle de transmission transovarienne. Donc les agents pathogènes, on les retrouve à tous les stades de la tique, y compris dans les œufs. Et ensuite, donc les œufs qui sont pondus vont donner des larves. Et l'agent pathogène donc est maintenu des œufs à la larve. Donc ça, c'est des agents pathogènes à transmission transovarienne. On en connaît un certain nombre, comme les parasites du genre Babesia. Il y a certains virus aussi de cette sorte-là. Et puis, il y a d'autres agents pathogènes, comme par exemple ceux qui sont impliqués dans la maladie de Lyme, qui, eux, ne sont pas transmis de la femelle à sa descendance. Donc, la tique, pour être infectée, doit d'une part les acquérir au moment d'un de ses repas sanguins. Et une fois qu'elle l'a acquis, il faut qu'elle puisse le transmettre au travers des stades. Donc lorsqu'elle va muer de la larve à la nymphe et de la nymphe à l'adulte, qui ensuite, chacun de ces stades, pourra retransmettre l'agent pathogène.
En fait, pour qu'une tique puisse transmettre effectivement un agent pathogène, il faut non seulement qu'elle puisse l'acquérir dans un repas, mais il faut qu'elle le maintienne à travers sa mue, puisqu'elle change quand même, son corps se modifie beaucoup pendant la mue. Il faut quand même que l'agent pathogène reste dans la tique et qu'ensuite elle soit capable de l'injecter. Et c'est toutes ces différentes étapes que vous avez vérifiées par le biais de votre étude, en fait, l'acquisition, le maintien et la transmission. Donc concrètement, comment vous avez fait? Il y a trois organismes qui sont en cause dans cette histoire. Il y a la bactérie Bartonella encellae, le vecteur possible que vous voulez vérifier, donc la tique Ixodes ricinus, et puis il y a l'hôte définitif, donc en principe c'est surtout le chat, éventuellement accidentellement l'homme par exemple, mais évidemment vous n'avez pas fait d'expérience en infectant des êtres humains pour démontrer la transmission.
Non, pas du tout. En fait, ce qu'on utilise au laboratoire, c'est un dispositif expérimental artificiel de gorgement des tiques. Donc, on utilise un peu quotidiennement au laboratoire pour étudier les transmissions des agents pathogènes par les tiques. Donc, c'est un système, en fait, qui est composé d'une peau. Alors, c'est de la peau de souris ou de lapin. Donc c'est de la peau tannée que l'on met en fait sur un récipient. D'un côté, on va mettre du sang qui est contaminé par l'agent pathogène que l'on veut étudier. Et de l'autre côté, on met les tiques. Et les tiques donc vont mordre la peau et se gorger du sang qui est de l'autre côté de la peau. Et donc ensuite, une fois que les tiques sont gorgées, elles se détachent. Et on récupère ces tiques, on les met dans une enceinte appropriée pour qu'elles soient dans une atmosphère qui leur convienne. Et elles vont muer et passer donc du stade, par exemple, larvaire, si on a nourri des larves, au stade nymphal. Et ensuite, on peut regarder dans les nymphes si ces nymphes ont acquis l'agent pathogène et si elles l'ont conservé.
Et donc c'est un leurre, la tique n'est jamais vraiment en contact avec un animal. Et ça marche bien, les tiques se laissent avoir.
En fait, les tiques se laissent complètement avoir. Nous, on a un élevage de tiques au laboratoire qu'on élève de cette manière-là. Et il n'y a aucun souci, en fait. Elles mangent, en fait, avec ce système sans aucun problème.
Et le sang est maintenu chaud, d'après ce que j'ai compris, pour que ça dégage de la chaleur pour attirer les tiques.
Oui, en fait, oui, il faut maintenir la température du sang à 37 degrés. Et ça fonctionne plutôt bien.
Alors pour l'infection de ces tiques, donc vous avez volontairement infecté les tiques. Vous avez fait exactement comment par rapport à ce dispositif là, c'était le sang ou comment vous avez eu le sang contaminé en fait, vous l'avez contaminé
vous-même.
Alors
en fait, ce qu'on fait, c'est que le sang de, on utilise du sang de mouton. Alors le sang de mouton, on l'achète en fait. Il y a des laboratoires qui vendent du sang et qui en fait le même sang qu'on utilise pour fabriquer les fameuses boîtes de pétri dont je vous ai parlé, qui sont utilisés pour faire pousser les bartonelles. Donc on prend du sang de mouton et dans ce sang de mouton, on va rajouter des bartonelles qu'on a fait pousser au laboratoire et on en met la dose qui est une dose naturelle qu'on retrouve en général dans le sang des animaux infectés.
Et donc vous savez exactement ce que vous avez mis dans le sang, vous avez
exactement
contrôlé. Et ça prend combien de temps à peu près pour la tique de se gorger sur ce dispositif artificiel?
Alors, ça dépend du stade de la tique. Plus c'est petit, plus c'est rapide, évidemment, puisqu'elle va se gorger moins longtemps et elle va prendre moins de sang. Donc, les larves, c'est en moyenne 2-3 jours. Les nymphes, on va dire une petite semaine. Et les adultes, ça peut durer 15 jours.
Ça, c'est pour le gorgement. Mais une fois qu'elles sont gorgées, donc elles se détachent. Et là, en fait, vous devez attendre qu'elles passent au stade suivant. Et là, c'est beaucoup plus long, apparemment.
Voilà, donc ça peut varier, c'est de l'ordre du mois, enfin ça peut varier, ça peut aller vers 2-3 mois en général pour qu'il y ait cette mue.
Et les larves et les nymphes vont muer, mais les adultes, par contre, là, c'est pas une mue, ça va être ce que vous attendez, en fait, c'est la ponte des femelles.
Voilà.
Et là, en fait, vous avez donc un groupe de tiques relativement important quand même, vous en avez un certain nombre. Vous allez pouvoir faire des expériences sur ces différentes tiques. Donc, il y en a qui vont vous servir à vérifier que les tiques ont pu ou non se contaminer avec la bartonelle. Et vos conclusions, c'est...
Donc, ce que nous avons montré, c'est qu'il y a d'une part une transmission transstadiale de Bartonella, hein, c'est-à-dire que les tiques se sont bel et bien infectées en se nourrissant sur le sang infecté. Et ensuite, la bactérie a été transmise de la larve à la nymphe. Et on a montré également que la bactérie était capable d'être transmise d'une nymphe à un adulte. En revanche, on n'a pas mis en évidence de passage de la bactérie, de la femelle aux œufs et à la larve, ce qui laisse penser qu'il n'y a pas de transmission transovarienne dans le cas des bactéries, ces bactéries.
Oui, contrairement à ce qui se passe avec Babesia, qui elle est transmise aux larves de la génération suivante. Mais alors il y a quelque chose de vraiment très très étonnant dans vos expériences, c'est que, bon déjà, quand on lit l'article, vous avez disséqué les glandes salivaires des tiques, vous n'êtes pas simplement cherché dans la tique globale, mais avant de le faire, vous avez séparé les glandes salivaires du reste de la tique. Alors déjà, c'est une question, quand on connaît la taille des larves et des nymphes de tiques, juste une question pratique, comment est-ce qu'on fait pour aller récupérer une glande salivaire dans une tique ?
Alors en fait, on fait ça sous loupe binoculaire. Hein. En fait, on le fait pas à l'œil nu comme ça, donc c'est sous une loupe. Et avec une loupe, il n'y a pas du tout de problème. On arrive à disséquer au niveau des glandes salivaires qui sont des organes assez gros en fait chez la tique pour sa taille. Et donc on les voit très bien.
D'accord. Alors, ce qui est frappant, enfin, on va le dire tout de suite, puis on va revenir dessus plus tard, c'est qu'à ce stade-là, quand la tique s'est gorgée puis a fait sa mue, que vous récupérez donc l'animal et vous étudiez d'un côté les glandes salivaires, de l'autre côté le reste du corps de la tique, vous avez trouvé des bartonelles dans le corps de la tique, mais pas dans les glandes salivaires.
Voilà. En fait, on n'a pas trouvé de bartonelles dans les glandes salivaires des tiques à l'affût, en fait. Donc des tiques qui s'étaient gorgées au stade précédent sur du sang qui était infecté. Donc là, ça nous posait un problème parce que pour qu'il y ait une transmission des bartonelles, il faut obligatoirement qu'à un moment donné, elles passent par les glandes salivaires. Parce que la transmission ne peut pas se faire par un autre organe que les glandes salivaires.
Et c'est là que la deuxième partie de l'expérience devient vraiment passionnante, c'est-à-dire qu'en fait, la deuxième chose, c'était de vérifier que la tique pouvait transmettre justement à un animal l'agent pathogène qu'elle avait acquis. Et là, vous avez remis en service le dispositif artificiel, mais cette fois-ci, vous leur avez offert du sang qui n'était pas porteur de bartonelles, du sang non contaminé.
Voilà. On a utilisé du sang non infecté. Et on a mis les tiques dans ce dispositif pour qu'elles puissent se nourrir du sang non infecté. Et on a identifié l'apparition des bartonelles dans le sang au cours du temps, au cours du gorgement.
Alors là, j'avais une question pratique. Donc ce sang, il faut donc être absolument sûr qu'au départ, il ne contient pas de bartonelles. De la même façon, d'ailleurs, même les tiques que vous avez récupérées pour votre expérience. C'est sûr que si ces tiques sont déjà porteuses de bartonelles ou si le sang que vous utilisez est déjà infecté, ça fausse complètement les expériences. Donc comment vous avez fait pour vous assurer qu'il n'y avait pas ce facteur-là de contamination extérieure, en fait ?
Alors, pour le sang, eh bien, lorsqu'on le reçoit, on teste le sang, évidemment, pour les bartonelles, hein, pour être effectivement sûr qu'il n'y a pas de bartonelles qui proviendraient du mouton sur lequel on a pris ce sang. Donc ça, évidemment, il y a des contrôles qui se font à l'arrivée du sang dans mon laboratoire. Pour les tiques, c'est une bonne question aussi. Comment sait-on qu'elles n'étaient pas contaminées à l'avance ? Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est que ce sont des tiques que l'on prend, enfin, qui sont issues de tiques qu'on a récoltées en forêt, hein, des tiques naturelles. Et donc, on reproduit le cycle. Et lorsqu'on arrive à la femelle qui pond ses œufs, on teste toutes les femelles qui ont pondu. Et les femelles qui sont négatives pour Bartonella, dans ce cas-là, on garde les œufs. Et c'est à partir de la descendance des femelles dont on sait qu'elles sont négatives pour Bartonella, qu'on a utilisé ces femelles-là, ces tiques-là, qui étaient issues de femelles négatives pour Bartonella, pour faire nos expériences. Ainsi, on était certain que les descendants de ces femelles étaient bel et bien négatifs pour Bartonella.
D'accord. Donc les tiques que vous aviez contaminées, par contre, donc qui étaient contaminées volontairement, vous les avez fait se nourrir sur du sang qui lui était propre. Et là, donc vous avez récupéré le sang à intervalles réguliers et vous avez pu voir l'apparition donc de bartonelles dans ce sang qui au départ n'en contenait pas. Ça a pris combien de temps à peu près pour que ça apparaisse dans le sang ?
Alors, si je me souviens bien de ce qu'on a fait, on a fait des prélèvements à peu près toutes les 12 heures. Et on s'est aperçu qu'on commençait à détecter les bartonelles après 60 heures de gorgement. Donc on les détecte en détectant l'ADN dans le sang. Et on a essayé aussi de les isoler parce que lorsqu'on détecte l'ADN, ça ne veut pas dire que la bactérie, elle est vivante et qu'elle est infectieuse. Donc on a essayé d'isoler ces bactéries à partir du sang et effectivement on a réussi à les isoler.
Donc il y avait effectivement des bactéries vivantes qui étaient apparues dans le sang et le seul facteur qui avait pu les faire apparaître c'était le fait que des tiques s'étaient nourries à partir de ce sang. C'est bien ça ?
Voilà.
Et donc, alors, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, vous avez aussi récupéré ces tiques alors qu'elles n'étaient pas complètement gorgées au bout d'un certain temps. J'ai noté 84 heures de gorgement. Et vous avez de nouveau cherché les bartonelles dans le corps de la tique et dans les glandes salivaires. Et là, aux surprises, il y avait effectivement des bactéries qui étaient dans les glandes salivaires alors que quand elles étaient simplement encore à l'affût, qu'elles n'avaient pas commencé à se nourrir, elles n'avaient pas de bactéries dans les glandes salivaires. Donc ça, c'est assez spectaculaire. Quelle peut être l'explication, en fait ? Est-ce que les bartonelles sont allées se placer comme ça, volontairement, on va dire, dans les glandes salivaires ? Est-ce que le fait que la tique commence à se nourrir, ça produit une migration des bartonelles à l'intérieur du corps de la
Alors,
tique ?
En fait, il y a deux possibilités. Effectivement, celle que vous évoquez, et qui est en fait exactement ce qui se passe pour les bactéries qui donnent la maladie de Lyme, les Borrelia, en fait. On sait que pour les Borrelia, elles se retrouvent attachées à l'intestin, en fait, de la tique, et le repas sanguin, le début du repas sanguin constitue une sorte de stimulus qui fait que Borrelia se détache de la muqueuse intestinale et elle va traverser la barrière intestinale et se retrouver dans les glandes salivaires. Donc ça, c'était très bien connu pour Borrelia, ça ne l'était pas du tout pour Bartonella et en fait, on pense qu'il peut y avoir un mécanisme similaire pour Bartonella donc qui passerait du tube digestif vers les glandes salivaires sous l'influence du repas sanguin. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième, c'est que les bartonelles, elles sont déjà présentes dans la glande salivaire, mais en telle faible quantité qu'on ne peut pas les détecter, mais qu'en revanche, le repas sanguin stimule ces bactéries qui pourraient se multiplier, et ensuite, donc, on les détecte. Donc, pour l'instant, on n'a pas tranché entre ces deux possibilités.
Mais que ça soit l'une ou l'autre, de toute façon, c'est quand même une adaptation qui vise à ce que les bartonelles puissent être injectées avec la salive. Enfin, en gros, ça plaide quand même pour que le fait que la transmission de Bartonella par la tique soit vraiment un mécanisme, une manière courante pour la bartonelle, pour laquelle elle est adaptée, en fait. Elle est vraiment faite pour ça. Elle peut passer par la tique de façon tout à fait habituelle
oui,
et adaptée.
Oui.
Alors, par contre, la bartonelle n'apparaissait pas dans le sang tout de suite. Donc, on dit souvent que quand la tique reste accrochée pas trop longtemps, ça diminue quand même le risque d'attraper des pathogènes. Et effectivement, s'il y a un mécanisme comme ça, ou de migration ou de multiplication du pathogène à partir du moment où le repas a commencé, ça voudrait dire qu'effectivement, on a vraiment, vraiment intérêt à enlever la tique le plus vite possible. Et ça peut éviter quand même pas mal de contamination dans ce cas-là, si on l'enlève rapidement.
Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est vrai pour Bartonella, c'est vrai pour Borrelia. Voilà. Après, il y a toujours des personnes qui ont été piquées par des tiques, qui les ont enlevées, qui pensent qu'ils les ont enlevées très tôt et qui, malgré tout, contractent des maladies. Donc, le plus tôt est le mieux. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un passage, malgré tout, de la bactérie. Donc, en biologie, c'est jamais du tout, du rien. Donc, voilà. Nous, on les a détectés à partir de 60-72 heures à peu près. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas quelques-unes qui peuvent passer aussi avant. Donc, le plus vite qu'on enlève la tique, le mieux c'est et le plus de chance on a de ne pas tomber malade.
Ainsi s'achève la première partie de cet entretien avec Muriel Vessier-Tossa. Le mois prochain, nous écouterons la deuxième partie de cet entretien qui est consacrée à la découverte de nouvelles espèces de bartonelles qui peuvent infecter l'homme.